Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h21, ce soir on s'arrête dans le débat du Club des Idées sur la fronde que suscitent les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement. Fermeture des bars et restos dans la métropole d'Aix-Marseille à partir de samedi. À Paris, ils devront fermer à 22h dès lundi. Et dans plein d'autres métropoles françaises, les élus locaux dénoncent des mesures punitives, prises sans concertation. Alors quelle est la réalité des faits? Quelle est la réalité des chiffres? Est-ce le dernier avertissement avant des reconfinements ciblés? La France en a-t-elle les moyens? En fait-on trop, en somme, au nom du principe de précaution? On en parle ce soir avec Jean-François Toussaint. Bonsoir. Vous êtes professeur de physiologie à l'Université de Paris, co-signataire d'une tribune critiquant justement d'une certaine manière la politique sanitaire menée par le gouvernement avec l'appui du Conseil scientifique. On en parle également avec Didier Chesnet. Bonsoir. Vous êtes président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. On en parle également avec Anne-Claude Crémieux qui va nous rejoindre dans quelques instants, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris et membre de l'Académie de médecine. Et puis avec Gérald de Passeda. Bonsoir. Vous êtes avec nous par téléphone, vous êtes chef du Petit Nice, célèbre restaurant, 3 étoiles Michelin à Marseille, et vous êtes très en colère ce soir, on vous entendra. Mais avant de vous donner la parole aux uns aux autres, d'abord quelques mots de réaction de Michèle Rubirola, la maire de Marseille. Elle est très remontée évidemment, elle était avec nous il y a quelques instants. Bonsoir Madame Rubirola.
Bonsoir.
Vous vivez vraiment cette situation comme une injustice, un affront de Paris fait à Marseille, la deuxième ville de France?
Oui. Tous les efforts que les Marseillaises et les Marseillais ont mis en place, ils commencent à payer et on n'en tient pas compte. Les chiffres parlent pour nous. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Au lieu d'être félicité, soutenu, accompagné, on est sanctionné.
Mais il y a quand même, Madame la maire, une réalité. Les urgences de votre ville, c'est vrai, sont quasiment débordées. Il n'y a quasiment plus de lits en réa. Le taux d'incidence est monté, je crois, à 250 malades pour 100 000 habitants, ce qui est beaucoup. Il fallait ne rien faire et continuer ainsi, c'est ce que vous dites?
Les lits de réa ne sont pas saturés. Il y a une augmentation de lits en réanimation. C'est vrai, sauf qu'il y a quand même un infléchissement de la courbe et il faut faire parler les chiffres, il faut exploiter ce que ça veut dire. Oui. Il ne faut pas sortir des chiffres bruts, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, on peut faire croire n'importe quoi et on peut faire peur. Et moi, je ne suis pas pour faire peur aux gens, je suis pour qu'on soit sincère dans ce qui se passe.
Le ministre Olivier Véran lui dit « Nous risquons d'atteindre une situation critique dans quelques semaines, alors il fallait agir ». Voilà ce qu'il dit face à cette situation.
Moi, je demande à Olivier Véran d'arrêter de faire peur et de prendre une position de médecin.
Oui.
Et d'analyser les chiffres comme je le fais régulièrement.
Vous avez l'impression qu'on est dans une dictature sanitaire, comme le disent certains?
Oui, tout à fait. Puisque de toute façon, les discussions viennent d'en haut. Il n'y a aucune concertation avec les élus locaux, avec ce qui se passe réellement. Ce sont des gens qui sont déconnectés de la réalité locale. Et c'est au moment où les résultats de nos efforts deviennent visibles qu'on est sanctionné. Comment vous voulez que ça se passe, quoi?
Certains restaurateurs de la métropole ex-Marseille disent déjà qu'ils ne respecteront pas ces mesures. Est-ce que vous craignez, pour parler clair, un mouvement de fronde populaire?
On peut, bien sûr, s'attendre à ça. Vous vous rendez compte de l'impact social et économique qui s'est réalisé là?
Oui.
7 000 emplois directs qui sont concernés, 28 000 emplois indirects. Mais ce n'est pas possible dans une ville qui est en difficulté, dans une ville qui fait des efforts pour que ça se passe bien. Voilà ce qu'on leur dit brutalement.
Oui.
C'est pas entendable.
Si le gouvernement ne renonce pas, quel message allez-vous faire passer à la police municipale? Est-ce que la police municipale appliquera les mesures de restriction, de fermeture des bars ou de restaurants, où elle sera accommodante?
Alors, je ne prends jamais les décisions toute seule. Donc, aujourd'hui, il y a une réunion de l'exécutif sous l'autorité du premier adjoint. Il y en a une autre demain. Et je pense que c'est au sein de ces réunions que seront prises les décisions selon les discussions que nous pourrons avoir avec l'État.
Jean Castex prendra la parole tout à l'heure sur France 2. C'est une prise de parole, évidemment, dans le contexte actuel, très attendue. Qu'est-ce que vous lui demandez solennellement, Michèle Rubirola?
J'ai eu M. Castex ce matin au téléphone, qui a d'un coup retrouvé mon numéro de téléphone ce matin. Je suis ravie. Et il m'a dit qu'il serait là pour nous accompagner, qu'il indemniserait les professionnels, qu'il reverrait la copie dans une semaine. Mais ce n'est pas dans une semaine, il faut attendre 10 jours pour savoir si les mesures qu'on avait mises en place continuent à être efficaces.
Oui. En dernier ressort, ce sera ma dernière question. Vous en appelez au président de la République, Michèle Rubirola?
Moi, s'il le faut, j'en appelle au président de la République, au Conseil d'État, pour qu'on puisse regarder de plus près ces mesures et suspendre les mesures qui ont été mises en place hier soir de manière injonctive, on va dire.
Merci, Michèle Rubirola. Merci infiniment.
Merci.
Oui, la maire de Marseille qui était avec nous il y a quelques instants, elle réagissait à ces mesures, très en colère, vous l'avez entendu. J'ajoute que le président de la région PACA, Renaud Muselier, annonce à l'instant qu'il déposera demain un référé contre la fermeture des restaurants. Voilà, vous avez compris, ça chauffe dans la métropole. Aix-Marseille, Anne-Claude Crémieux nous a rejoint, professeure en maladies infectieuses. Bonsoir à l'hôpital Bonsoir. Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. D'abord, est-ce que vous entendez le message de colère de Michèle Rubirola et dit-elle vrai quand elle dit qu'il y avait depuis quelques jours là une inflexion des indicateurs clés dans la métropole ?
Écoutez, c'est très difficile parce qu'on le voit effectivement, il y a vraiment des fluctuations tous les jours. Et ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les tendances sur 7 à 14 jours. Donc il est vraiment, je crois, très prématuré de dire que la situation va mieux à Marseille.
Après, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres un peu cliniquement, pardon, mais le taux de positivité était passé de 8,7 à 8,2, donc ça baisse un tout petit peu. Le R0, je crois, est repassé en dessous de 1, ce qui est plutôt engageant. Et les élus locaux disent qu'il fallait nous laisser le temps, car la tendance était en train de s'inverser.
Mais c'est toute la difficulté de la lutte contre cette crise. C'est qu'effectivement, le vrai risque, c'est d'être pris de vitesse par le virus et au fond, de courir toujours derrière lui sans arriver à prendre des mesures suffisantes pour le contrôler. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on veut éviter, c'est de se retrouver dans une situation qui est tellement incontrôlable que finalement, le système de santé sera totalement débordé et qu'au fond, les autorités vont être obligés de considérer des mesures encore plus contraignantes. L'objectif, c'est clairement d'éviter d'avoir à prendre des mesures contraignantes. Et finalement, pour éviter de prendre des mesures contraignantes, c'est essayer de contrôler la progression de ce virus. C'est vraiment ça l'objectif. Et
mais
évidemment,
pardonnez-moi,
c'est pas
madame,
toujours
mais...
extrêmement facile oui. D'arriver à doser oui. Exactement le niveau des mesures à prendre. Mais le risque d'être en retard.
Mais pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vérité universelle parce que Jean-François Toussaint, ici présent, vous êtes professeur de physiologie à l'Université de Paris et vous êtes co-signataire d'une tribune qui critique la politique du gouvernement en matière sanitaire appuyée par le Conseil scientifique. Et vous, vous dites l'inverse. On est dominé aujourd'hui par une politique de la peur et on en fait trop.
Et on est essentiellement dominé par une interprétation particulière des chiffres. En l'occurrence, ils sont contestés par les professionnels de Marseille, les chefs de service des urgences, le professeur Parola, les uns et les autres disent que les chiffres qui ont été annoncés et qui ont justifié la mise sous tutelle quasiment de l'ensemble de l'économie marseillaise ne sont absolument pas fondés sur l'évolution qu'ils constatent, sur l'absence de saturation des lits de réanimation à Marseille, sur l'absence d'aggravation en particulier sur les décès. Il y a eu hier un décès à Marseille, du Covid.
Donc comment vous expliquez que le gouvernement prenne ce type de décision ?
43 décès en France. On nous avait annoncé, comme souvent et comme depuis 6 mois, une élévation exponentielle depuis ce temps. Et ce que l'on a constaté sur les chiffres, une fois de plus officiels français, c'est que nous étions à 123 décès vendredi, 78 mardi et 43 hier au moment où on décide.
Donc ça baisse.
C'est-à-dire que ça baisse.
Et comment vous vous expliquez alors cette prise de décision du gouvernement ?
À proposer des décisions qui vont simplement cette fois-ci écrouler l'économie et qui vont nous faire assister à une mort sociale, économique et culturelle des endroits où on va répéter oui. L'erreur du printemps, c'est-à-dire celle d'un confinement qui n'a pas fait la preuve de son efficacité.
Et c'est un point central du débat, on en parlera dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 19h32, c'est la suite du grand débat du Club des Idées. Et on évoque évidemment les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement qui provoquent la fronde des élus locaux et des professionnels du tourisme, notamment à Aix-Marseille, mais pas seulement, à Paris aussi, à Lyon, dans tout un tas de métropoles où ces mesures vont s'appliquer à partir de samedi pour Aix-Marseille et à partir de lundi pour les autres villes. Anne-Claude Crémieux, vous êtes toujours avec nous, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et vous dites que ce sont des mesures nécessaires pour éviter d'autres mesures, encore pires que celles-ci. Mais n'y a-t-il pas quand même un problème de cohérence ? Pourquoi fermer les bars et les restos et pas, par exemple, les transports en commun ? Je suis allé à Marseille il y a quelques semaines, les gens sont agglutinés dans les tramways, dans les bus, alors que les restaurants, jusqu'à présent, respectent plutôt les mesures sanitaires avec des tables éloignées les unes des autres. Vous comprenez ce sentiment d'injustice ?
Alors, il y a en fait une réponse extrêmement simple. Il y a des endroits où effectivement il y a une foule assez dense, mais on peut porter un masque, on peut d'une certaine manière respecter des mesures comme la distance. C'est le cas des transports en commun et à ce jour...
Pas toujours.
Alors, les gens portent les masques dans les transports en commun. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais finalement...
Mais quand on est à 5 cm les uns des autres,
il vaudrait
c'est plus
mieux
compliqué.
Avoir, je ne dis pas, il vaudrait mieux pouvoir garder une certaine distance, mais le port de masque par tous est une mesure réellement protectrice.
Mais ça, je crois que personne n'en doute. Hein, les Français l'ont accepté.
Oui, non, et c'est bon. Vous me demandez quelle est la différence entre les transports
dans les
en
lieux
commun
clos.
Et
dans
les
lieux
bars.
Clos. Dans les lieux clos.
Et c'est malheureusement ça la différence. C'est-à-dire que il y a des lieux où effectivement, non seulement il y a une densité importante de personnes, mais effectivement, il est difficile d'appliquer les mesures barrières, c'est-à-dire la distance et le masque. Et ces lieux, de fait, deviennent des zones de contamination.
Alors, mais est-ce qu'on est sûr que c'est dans les bars et les restaurants qu'on se contamine le plus ? Parce que moi, j'avais cru comprendre que les clusters les plus importants, c'était dans le cadre familial et dans les entreprises.
Alors, vous avez complètement raison de souligner que si cette mesure est isolée, elle est inefficace. Au fond, le message essentiel... C'est les mesures barrières, c'est-à-dire la distance et le port de masque, doivent être appliquées partout. C'est-à-dire non seulement effectivement dans les bars et les restaurants, dans les transports et chez soi, c'est parce que le virus ne s'arrête pas sur le pas de votre porte.
Alors je voudrais qu'on aille du côté de Marseille pour rejoindre, qui est avec nous par téléphone, Gérald de Passeda, chef du Petit Nice, célèbre restaurant, 3 étoiles Michelin à Marseille. Vous êtes évidemment, comme tous les professionnels du tourisme sur place, très en colère. Vous savez que le Premier ministre Jean Castex s'exprimera dans quelques minutes, à partir de 21h, sur France 2, dans l'émission politique. Si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui délivrer comme message ?
Moi, je peux comprendre à la limite qu'on puisse prendre de telles circonstances, au vu des telles circonstances, de telles mesures. Mais là où madame a parlé tout à l'heure, et elle avait raison, c'est que dans les transports en commun, c'est aussi très transmissible, ce que vous avez soulevé comme point, alors que dans un restaurant comme le mien, notamment un 3 étoiles Guide Michelin, où la distanciation sociale est de mise, tous les respects d'ordre sanitaire sont bien entendu... notre point d'honneur, on a un point d'honneur à les pratiquer du mieux que l'on peut. Nos clients sont séparés à plus d'un mètre de table, etc., etc. Et même si ce n'est pas un 3 étoiles de Michelin, j'essaie de me faire aussi le porte-parole de tous mes amis et confrères restaurateurs de Marseille et d'Aix. Tous ces gens-là font les efforts nécessaires, comme nous a demandé jusqu'à présent, pour l'hygiène, pour les barrières, les distanciations sociales.
Donc vous avez le sentiment vraiment d'être injustement visé ?
Je pense que quelque part, on se trompe de sujet. Parce que, par exemple, on a ouvert les plages comme ça à tout le monde cet été, sans que la police, qui était absolument insignifiante, ait pu vérifier quiconque si tout le monde portait des masques ou pas. Quand, lorsque tout le monde s'est amusé, qu'on a reçu toute la France entière à Marseille et Aix, parce que c'était la mode de venir chez nous. Et tant mieux, parce qu'on ne va pas cracher non plus là-dessus, forcément. Par contre, toutes les distanciations sociales n'étant pas là, parce que le civisme n'est pas un acte français réel, si je ne m'abuse. Et par contre, il n'y avait absolument personne pour contrôler cela. Donc maintenant, on arrive à un état de fait où ceux qui ont fauté, si je puis dire, en se pensant au-dessus des lois, en ne pratiquant pas les distanciations sociales, ne pratiquant pas les mesures d'hygiène que l'on préconisait, et que nous, professionnels de la restauration, de la cuisine, de la gastronomie, de la petite restauration, il n'y en a pas, de la bonne ou de la très bonne cuisine, nous avons mis un point d'honneur à pratiquer, nous sommes les premiers à être, si je puis dire, pointés du doigt. Ça, je trouve ça un petit peu incohérent de la part de nos instances gouvernantes, voilà.
Merci.
Forcément, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus.
Merci Gérald Passeda, c'était important de vous entendre ce soir. Évidemment, bon courage pour ces jours qui s'annoncent pour vous difficiles, pour le personnel et pour l'ensemble du secteur touristique à Marseille. Didier Chenet, je voudrais votre réaction justement. Vous êtes président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. D'abord, peut-être un mot court de commentaire. Comment vous avez-vous reçu ces nouvelles mesures ?
Brutalement, c'est une, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est une décision que nous estimons inique, aveugle, qui s'abat sur une profession, qui stigmatise une profession, comme si nous étions les porteurs du virus, comme si c'étions nous qui allions colporter et faire que ce virus allait se propager. On ne comprend absolument pas, vous avez pris l'exemple des transports en commun, mais
Monsieur avait ensemble oublié, Gérard l'a redit, nous avons mis en place un protocole sanitaire.
Oui.
Ça a coûté des millions d'euros à nos professionnels. On a mis en place un protocole sanitaire qui prévoit le gel hydroalcoolique, le port des masques, madame. Personne ne rentre dans un restaurant sans avoir un masque. Il ne l'enlève que lorsqu'il est à table. Et quand on vient dans un restaurant, quand on est plusieurs, en général, c'est parce qu'on est entre amis et pas avec des gens que l'on ne connaît pas.
Oui.
Donc nous avons mis en place tout ce protocole. Mmh. Monsieur Véran semble l'ignorer, puisqu'hier, il a dit « Je ferme tous ceux que j'estime devoir fermer. Et puis, ceux qui ont un protocole sanitaire, je ne les ferme pas.
Mmh.
À savoir, et j'ai rien contre, les cinémas, les théâtres, et tant mieux. Mais nous, il semble oublier qu'on a signé un protocole dans son propre ministère. »
Oui. Jean-François Toussaint, professeur de psychologie, de physiologie à l'Université de Paris. Votre réaction ?
Écoutez, il y a effectivement de multiples activités économiques dans la société française qui vont pâtir de ces mesures qui sont, je le répète, arbitraires, qui ne sont pas fondées sur des chiffres, dont certains chiffres ont été inventés, voire décalés.
Mais
pour
avancer, vous pensez que nous n'aurions pas dû prendre de mesures, enfin que le gouvernement n'aurait pas dû prendre de mesures ?
Non, je dis par exemple que pour les salles de sport et pour la démonstration qui est faite, c'est simplement la preuve de la compréhension totalement erronée du phénomène pandémique.
Quand vous parlez de chiffres inventés, pardon, c'est une accusation assez grave, vous parlez de qui est-il ?
Je parle simplement des 300 morts qui ont été ajoutés par Santé publique France dimanche soir à 19h30 et qui ont été retirés à 23h30 après les journaux de 20h. Je parle des 123 décès qui ont été cumulés le vendredi du week-end dernier pour un compte total de décès d'un hôpital de l'Essonne qui ont été rapportés à la seule journée de vendredi, alors qu'elle s'est allée sur l'ensemble de l'été. Et je parle des 16 décès en Guadeloupe qui ont été simplement annoncés hier, alors qu'ils étaient répartis sur plus de 10 jours.
Donc
on est sur des éléments sur lesquels la comptabilisation
est important. Vous êtes d'accord avec ça, Claude Crémieux ?
Je n'ai absolument pas connaissance de ces manipulations. Donc
on va pouvoir les remonter. J'ai l'ensemble des preuves qui permettent de le montrer.
C'est grave. Bien, si ce que vous dites est vrai, c'est très grave.
Ailleurs,
et si c'est
l'ensemble des éléments,
c'est très grave.
L'ensemble des éléments sont là. Et par ailleurs, ce que l'on voit, c'est que sur des activités comme celle du sport, je le disais, ça fait preuve d'une totale incompréhension, puisque les patients qui ont été les plus nombreux en réanimation, 85% d'entre eux étaient des patients sédentaires, avec des facteurs de risque cardiovasculaire, qui n'avaient pas de pratique d'activité physique régulière ou sportive, et que par ailleurs, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, existe un service de réhabilitation par l'activité physique ou le sport, qui est justement celui qui se tourne maintenant vers les patients Covid pour leur redonner les armes qui leur manquaient pendant cette pandémie du printemps.
Quelques minutes de pause et on se retrouve pour continuer à en parler. 19h41, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et à 19h43, on continue avec le débat du Club des Idées à parler de la fronde que suscitent les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement. Alors on a évoqué les chiffres et puis l'interprétation qu'ont fait les uns et les autres des chiffres. Anne-Claude Crémieux, je vais vous poser une question qui, vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui n'est pas très politiquement correcte, comme l'on dit, mais qui commence à monter dans le débat public. Pourquoi ne pas mettre à l'abri les personnes les plus sensibles et pénaliser l'ensemble des Français et l'ensemble de l'économie ? Alors qu'on sait, je parle sous votre contrôle, qu'entre 75 et 80% des victimes directes du Covid ont plus de 65 ans et sont des personnes qui présentent des comorbidités.
Vous avez raison de poser la question, parce que la question s'est posée plusieurs fois dans le débat. Effectivement, en raison des conséquences économiques importantes et en particulier sur la population jeune. De fait, je crois qu'on peut répondre, mais encore une fois, il y a une vraie incertitude sur la réponse, qu'il est quasi impossible d'arriver à créer une frontière étanche entre les différentes générations. On l'a bien vu d'ailleurs dans l'évolution de ce qui s'est passé depuis juin-juillet. On nous a dit, c'est les jeunes, pas de problème, les jeunes se voient entre eux, ça n'atteindra jamais la population plus âgée. Et puis on voit bien que c'est impossible de maintenir cette frontière et qu'effectivement, progressivement, ça a diffusé dans la population un peu plus âgée et puis la population très âgée avec les conséquences sanitaires qu'on a vues.
Ce qu'on nous a dit aussi, qui a dérouté beaucoup les Français, c'est qu'on nous a dit il faut atteindre un niveau d'immunité collective. Donc il faut que le virus circule. On nous a dit il faut que le virus circule.
Oui, on a aussi entendu ça, et notamment avant la première vague, avant que les autorités se rendent compte qu'avec le taux de mortalité qui était à l'époque connu, on arriverait à des conséquences en termes de décès qui étaient trop importante, en tout cas qui était considérée comme inacceptable.
D'où ma seconde question pour terminer. Est-ce qu'on ne court pas après un lièvre qui va trop vite? Est-ce qu'on ne court pas après un lièvre qui va trop vite? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un message de vérité d'une certaine manière et dire oui, il y aura des victimes, car le risque zéro n'existe pas. Mais il faut apprendre à vivre avec. Parce que sinon, il y aura peut-être une troisième vague, une quatrième vague, une cinquième vague jusqu'à l'arrivée d'un vaccin.
C'est pour ça qu'il faut être extrêmement clair sur la stratégie qui est effectivement celle du gouvernement. Ce que l'on a compris, là, c'est que la plupart des pays ont renoncé à l'idée de créer une immunité de groupe parce qu'on considère que c'est trop dévastateur, que ce serait trop coûteux pour la société en termes de vie humaine. Oui. C'est ce qui a été décidé par la plupart des pays.
Vous n'êtes pas d'accord, Jean-François
Toussaint ? Non, pas du tout. Pourquoi ? L'ensemble des pays ont suivi une politique qui était celle qui était donnée par l'OMS. L'indication a été confinée comme l'a fait la Chine, mais la Chine n'a confiné que Wuhan et le Hubei. Elle n'a pas confiné la totalité de la Chine. Tout le monde s'est aligné sur cette position et certains pays comme la Suède ont décidé de faire autrement. Et justement, ce que l'on voit maintenant, c'est que alors qu'on leur prédisait 70 000 décès en Suède, donc de mauvaises modélisations, de mauvaises estimations et de mauvais algorithmes qui sont arrivés alors que la Suède sort maintenant de cette phase épidémique dans laquelle elle a payé le ticket d'entrée complet. Pas de deuxième, pas de troisième, pas de quatrième vague.
Mais avec un taux de mortalité plus important dès le départ.
Attendez. Avec 6 000 décès seulement. Donc on est sur une valeur sur laquelle il manque 92% des décès qui avaient été prédits pour la Suède. Donc en fait, ce calcul qui a été fait pour la France avec 500 000 décès, qui a été fait pour la Grande-Bretagne avec 500 000 morts attendus, est un calcul faux. Et on s'est basé là-dessus, et seulement là-dessus. Et maintenant, on en paye le prix économique. Et j'ajouterai que sur le fait des nouvelles générations et sur le fait des échanges entre les générations, le pire qui a été atteint, c'est celui de cette campagne monstrueuse, immonde, qui devait être retirée des écrans, sur lequel on voit une grand-mère partir en réanimation à cause d'ailleurs, du manque de précautions de ses petits-enfants et de ses enfants.
D'ailleurs, on voit que les campagnes de sensibilisation ont évolué parce que ce n'était pas le message qui était diffusé sur les écrans.
La caricature de la communication actuelle.
Il nous reste peu de temps, Didier Chesnais, je voudrais
peut-être
vous entendre.
C'est la seule chose sur laquelle on est d'accord.
Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais c'est important de le dire. Anne-Claude Crémieux.
Je suis absolument d'accord sur le fait que cette campagne qui culpabilise les jeunes, alors même que les chiffres montrent que les jeunes mettent autant de masques que la population plus âgée, je la trouve déplacée.
Bien. Didier Chesnais, votre réaction, parce que c'est vrai que vous assistez à quelque chose qui est fondamental pour la suite des événements et pour votre profession et l'économie tout entière. Les scientifiques entre eux ne sont pas d'accord.
Mais c'est tout le problème. Moi, je suis heureux de savoir qu'il y a au moins quelqu'un qui a compris la stratégie de M. Véran, parce que nous ne la comprenons pas du tout, mais absolument pas. Donc, quand il prend ce genre de décision, brutalement, sans concertation, nous disons au Premier ministre, il est temps d'arrêter cette histoire et de s'embarquer dans une affaire où les professionnels sont totalement désespérés, la colère gronde, et la colère n'est jamais bonne conseillère. Nous disons au Premier ministre, retirez ce texte, venez discuter, nous avons demandé à ce que l'on soit reçu par le Premier ministre, que l'on puisse discuter avec lui, avoir une véritable concertation, et que l'on puisse comprendre la situation. Nous ne comprenons rien, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que plus personne, en tous les cas dans nos professionnels, ils ne croient plus en la parole politique.
Et ça, c'est grave. Vous craignez des actes de désobéissance civile. On a vu qu'il y avait une manifestation qui était organisée par les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie, notamment demain à Marseille, et certains ont dit « nous ne fermerons pas ».
Je ne les encourage pas, mais je les comprends. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est extrêmement dangereux, vous savez. On désespère cette profession. On la désespère. Quand vous n'avez plus rien à perdre, ça devient excessivement dangereux.
Anne-Claude Crémieux, quelques mots. Qu'est-ce que vous attendez ce soir de Jean Castex?
Écoutez, je pense que c'est important d'écouter ça. Moi, ce que je regrette, c'est qu'au fond, les mesures simples qui étaient compatibles avec la vie économique, si on les avait appliquées de manière massive, c'est-à-dire le masque et la distance sociale, y compris dans les établissements, bars et restaurants,
je vous rejoins là-dessus.
N'est pas effectivement suffi à contrôler l'épidémie. Et je suis d'accord avec vous. Je déplore que les bons élèves, ceux qui effectivement ont appliqué les mesures sanitaires, se retrouvent
aujourd'hui
pénalisés et mis dans le même sac que effectivement des établissements qui n'ont pas joué ce rôle-là. On ne peut que le déplorer. Effectivement, mais dont acte, parce que je suis médecin, je vous je vois effectivement la progression du virus et il faut trouver, des mesures pour ralentir ce virus.
Mais ça, c'est la carence des pouvoirs publics qui n'ont pas voulu faire respecter la loi. Je suis désolé.
Merci à tous les trois. Merci infiniment. Le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé.